7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour à tous chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite ligne droite estivale, cette émission spéciale. Alors aujourd'hui nous sommes en équipe réduite, à commencer avec Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Maëlys.
Alors aujourd'hui, chers auditeurs, comme Arnaud vous l'a dit il y a quelques instants, nous allons parler justement de ces fortes chaleurs et notamment de cette canicule. Vous le savez, hein, chers auditeurs, c'est un épisode de forte chaleur qui, je crois, a causé bien de maux MAUX à l'ensemble des Français et surtout à nos agriculteurs qui, j'imagine, ont vécu certaines difficultés. Donc on en parle tout de suite avec Pierre-Guillaume Mercadal et Maglone de Cèze. Bon, ben on continue. Oui. Ah, ben ils sont avec nous. Bon, ben super. Alors, bonjour Pierre-Guillaume Mercadal.
Bonjour Maëlys.
Mais bonjour Maglone de Cèze.
Bonjour Maëlys. Bonjour Pierre-Guillaume.
Alors, aujourd'hui, justement, donc, je le disais, nous allons parler de canicule, justement. Donc, je le disais, cet épisode de forte chaleur que nous avons connu donc il y a quelques jours et que manifestement selon les météorologues on est un petit peu prêt à en vivre une prochaine, notamment donc courant le mois de juillet. On le sait, ce sont des épisodes qui causent beaucoup de problèmes, hein, comme si les agriculteurs n'avaient déjà pas assez de soucis, j'ai envie de vous dire. Alors Pierre-Guillaume Mercadal, je vais ouvrir un petit peu le bal avec vous. Vous, aujourd'hui, donc la canicule est passée. Tout d'abord, comment est-ce que vous l'avez vécu? Et surtout, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs aussi la situation des agriculteurs actuellement et en particulier la vôtre?
Je veux dire, alors mon exemple n'est pas le plus pertinent parce que quand on élève en plein air intégral, en hyper extensif, donc avec beaucoup de place pour les animaux et tout intégralement dehors, ben en fait la canicule n'est pas si impactante. Hein. Moi j'ai eu aucune perte puisque les animaux se réfugient à l'ombre de la forêt, ils ont des points d'eau, globalement tout se passe très bien. Au niveau des éleveurs, c'est surtout pour ceux qui font du bâtiment avec des structures un peu plus intensives que c'est problématique, parce qu'au moindre problème technique, que ce soit lié à la clim, à la ventilation, au système qu'ils ont pour refroidir, au moindre problème technique, ils perdent tout, quoi. Donc ça peut arriver en cochon, ça peut arriver en volaille. Là, il y a eu pas mal de cas en volaille d'ailleurs. Mais voilà, pour les éleveurs, le risque est vraiment pour ceux qui sont donc sur des systèmes en intérieur d'avoir ce genre de problème ou éventuellement dehors, mais s'ils ont que de la prairie, quoi, qu'il n'y a pas le moindre point d'ombre, etc. Mais pour ceux qui ont des systèmes un peu extensifs, voilà, pas de souci. Beaucoup de problèmes en arboriculture puisqu'il y a des fruits qui ont été tout simplement brûlés ou tachés et où donc on sait que la récolte ne sera pas bonne du tout. Je sais que chez nous, par exemple, il y a eu pas mal de problèmes en prunes et il y en a sur un certain nombre de fruits. Et puis des cultures qui peuvent griller quand on passe les 45 degrés, quand on arrive sur des températures comme ça. Il y a quelques années en arrière, on avait carrément vu des vignes griller, c'est-à-dire qu'elles étaient brûlées sans avoir pris feu, mais les vignes étaient mortes, quoi. Donc le risque, moi je vous dirais que c'est surtout quand on passe certaines températures qui détruisent les plantes en fait. Ça effectivement c'est un gros risque face auquel on peut pas faire grand chose.
C'est un constat que vous partagez, Maglone de Cèze?
Oui, tout à fait. En grande culture, hein, c'est-à-dire tout ce qui est céréales, ce qu'on a constaté, c'est que le grain en fait nécessite une maturité à son rythme lent. Il n'a pas mûri, il a été saisi par la chaleur. Mais il faut voir aussi toute l'évolution de la météo au cours de l'année, parce que chaque année est extraordinaire, malheureusement,
oui.
Mauvais sens du terme. C'est que en réalité, on a eu des conditions de semis à l'automne exceptionnelles, et ça faisait 2 ou 3 ans qu'on n'avait pas eu ça. Donc on a beaucoup semé, on a semé du blé dans de bonnes conditions. Et puis en février est arrivée une pluviométrie exceptionnelle. On se souvient des inondations partout en France. Donc là, le développement des racines c'est très mal opéré. Et puis en avril, très froid et sec avec des gelées blanches. Donc là, la végétation s'est arrêté, il n'y a plus de croissance du tout. En mai, on a eu les premiers coups de chaud, quelques orages par-ci par-là qui ont bénéficié à certaines certaines régions. Et puis en juin, ça a été le coup de grâce quelque part. C'est ce qu'on peut dire, c'est que le grain a été saisi. Alors en fait, tout dépend de la qualité des sols. Dans les sols très argilo-calcaires, c'est-à-dire superficiels, avec une très faible résistance à la sécheresse, là, le grain de blé est comparable à des grains de riz. Donc très petit, donc du coup très peu de rendement. Par contre, dans un sol plus profond qui résiste mieux à la sécheresse, là, on va avoir des rendements effectivement peut-être plus corrects, je vais pas dire meilleurs, mais corrects. Mais chez nous, en Berry, en zone intermédiaire, la récolte n'est pas bonne, en quantité en tout cas, mais par contre en qualité, on retrouve les taux de protéines intéressants pour la meunerie, voilà, pour fabriquer la farine et ensuite le pain pour les Français.
Quand vous comparez à vos anciennes récoltes, vous voyez une vraie différence entre celle d'aujourd'hui et celle d'avant?
Oui, une énorme différence. D'abord, la précocité. Donc, mon mari et moi, nous sommes installés depuis presque un peu plus de 30 ans sur l'exploitation. Au début, on commençait les moissons, allez, on va dire vers le 10 juillet. Bon, bah là, on a fini le 2 juillet. On a tout
Ah
fini
oui.
le 2 juillet. Donc, c'est exceptionnel. C'est vraiment des conditions exceptionnelles. Bon, en plus avec tous les risques d'incendie que nous avons eus, nous, dans le département, donc il a fallu s'adapter avec des restrictions, avec des interdictions de moissonner l'après-midi, avec des mesures qu'il fallait prendre, c'est-à-dire que en dehors de certaines plages horaires, on avait l'autorisation de moissonner, mais il nous fallait des tonnes à eau, il fallait un déchaumeur tout prêt à être actif en cas de départ d'incendie. Donc effectivement, on voit que les moissons ont plus la même saveur et on change vraiment de paradigme quelque part.
Pierre-Guillaume Mercadal, vous, comment est-ce que vous pensez que les agriculteurs doivent s'adapter à ce genre de situation? Enfin, on voit que le gouvernement a l'air lui-même assez dépassé. Donc vous nous avez dit que vous n'êtes pas forcément, en tout cas, l'agriculteur le plus touché. Mais comment est-ce que vous pensez que l'heure est à l'adaptation?
Bah, écoutez, c'est un éternel débat. Alors oui, le gouvernement, de toute façon, on ne peut rien en attendre, puisqu'à part essayer de nous assassiner, il ne fait rien. Ils sont incapables de faire une loi qui soit utile aux agriculteurs. Pourtant, ils connaissent les problèmes, ils connaissent les réponses. Mais vu qu'ils, excusez-moi, ils tapinent tous pour l'Europe, voilà, on connaît la chanson. Maintenant, bah, écoutez, il y a deux choix possibles. Le premier, c'est celui de justement de s'adapter, de modifier, ben, de modifier les variétés qu'on plante, de s'adapter justement à ce changement climatique pour aller vers des choses qui sont plus résistantes. Et de l'autre côté, il y a la version beaucoup plus industrielle, on dira, qui a malheureusement été d'ailleurs soutenue par la CR, qui est ben, ce qui est en train d'arriver dans ce pays, c'est-à-dire ben, les OGM, quoi, ou qu'on appelle NGT maintenant, mais c'est exactement la même chose. C'est donc de passer sur des créations en labo qui vont être plus résistantes, mais après avoir eu leur ADN modifié, dirons-nous. Ça, c'est un peu un truc à titre personnel, qui me fait très peur. D'ailleurs, je trouve qu'on en parle trop peu et qu'il y a une pression des lobbies en face que j'ai quasiment jamais vue. Parce que là, il faut quand même comprendre qu'avec les dernières lois qui viennent de passer, c'est la fin du bio en France. Tout le monde va bouffer des OGM et en plus de ça, vous ne l'aurez pas sur les étiquettes. Et ça a été voté en toute souplesse par l'Europe. Voilà.
Oui, et
Je
puis...
tiens à rappeler ça, c'est quand même une catastrophe à mes yeux, en tout cas sans précédent. J'espère qu'on arrivera à se mobiliser pour empêcher ça, mais là, je vous avoue que je suis un peu désespéré par ça. Et donc après, ben sinon, au niveau de la canicule, ben les techniques, vous savez, le bon sens paysan, les gens, ils les connaissent déjà, c'est adapter les arrosages, faire ça très tôt le matin ou tard le soir pour éviter ben, que l'eau, comment dire, s'évapore trop vite et surtout brûle les feuillages. C'est mettre, bon, c'est pas faisable par exemple en grande culture, mais pour tout ce qui va être maraîchage, ça va être plus de paillage pour garder les sols plus frais, plus humides. Voilà, c'est des techniques qui existent depuis bien longtemps, mais je pense qu'il va aussi falloir s'adapter parce que, comme je vous disais, il y a certains pics de chaleur qui crament tout. Donc, ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire.
Alors vous êtes revenu justement sur la pression de ces fameux lobbies, donc les lobbies européens. Hein, voilà, je pense que nos auditeurs ne sont pas dupes. Alors vous avez dit c'est la fin du bio en France, mais on imagine que c'est aussi un petit peu la fin de la santé des Français, en fait.
Mais en fait, c'est la fin du non-OGM, puisque bon, même si ce sont des semences qui se reproduisent peu, avec un phénomène tout bête qui s'appelle la pollinisation, vous allez en avoir partout. On risque d'avoir en plus des variétés sauvages qui muteront, hein, des cas qu'on a déjà vus un peu partout dans le monde. Par exemple, avec on prend le cas du Canada qui fait beaucoup de moutarde. Bon, ben, avec la moutarde OGM, ils ont fait muter la moutarde sauvage, et la moutarde sauvage, ils s'en débarrassent plus. Enfin bon, bref. Il y a tous ces cas-là comme ça. Après, il y a tout ce que ça entraînera pour la santé et le fait surtout que ce ne soit pas étiqueté. Donc, à partir du moment où c'est pas étiqueté, en fait, tout le monde peut en planter, tout le monde peut faire absolument n'importe quoi. Et donc, il y aura des OGM absolument partout, dans tout ce qu'on va manger. Et voilà. Et personne ne se soulève contre ça. Ça passe vraiment comme une lettre à la poste. On a eu toute cette pétition et toute cette action contre les néonicotinoïdes où je comprends les gens qui ont signé cette pétition, mais où ils étaient manipulés, puisqu'au final, tout ce qu'on a fait avec cette pétition, c'est détruire la noisette française au profit d'importations avec encore plus de néonicotinoïdes venant de Turquie et d'autres pays de l'Est, j'en passe. Et là, aujourd'hui, que c'est chez nous qu'on va avoir des OGM partout dans la bouffe, personne ne dit rien, personne ne sait rien. En fait, le tour de passe-passe, ça a été de changer le nom, passer de OGM, donc organisme génétiquement modifié, à NGT, qui sont les nouvelles techniques, les nouvelles techniques génomiques, je crois. Voilà. Une vaste escroquerie.
Ouais.
Donc, j'espère que la population, qu'on arrivera à la réveiller, parce que là, je vous cache pas que je suis passablement... passablement inquiet et passablement déçu de la façon dont ça a été géré.
Alors justement,
j'aimerais bien rajouter, excusez-moi, je voulais bien rajouter quelque chose, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, et il y a un autre volet aussi, la CR, c'était la coordination rurale s'était battue pour ça, pour les semences fermières, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser nos propres variétés et nos propres semences. Si on rentre dans un système OGM ou NGT, peu importe, c'est la même chose, c'est terminé, on est pieds et mains liés avec les semenciers, avec tout ce système-là, et on ne pourra plus avoir nos propres semences et nos semences anciennes et nos variétés anciennes, celles que nous avons, que nous faisons sur nos exploitations. Et ces semences, effectivement, elles vont avoir un coût en plus, elles seront onéreuses, et il va falloir les acheter tous les ans. Et pour offrir aux Français une nourriture qui, comme le disait Pierre Guillaume, sera la même pour tout le monde. Et je ne sais pas si c'est tout à fait bon pour la santé, ni également pour l'environnement.
Alors, vous avez parlé... Allez-y.
Si je peux me permettre, mais parce que ce que vient de dire Maglone est très important, moi, ce qui me terrifie aussi, c'est que l'agriculture française est souvent critiquée, mais en attendant, on a la plus vertueuse ou l'une des deux ou trois plus vertueuses du monde. Les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a. Sauf que les paysans qui sont en train de se faire avoir par ces promesses d'OGM, de NGT, on leur sert toujours la même musique, on les roule toujours pareil, les paysans. C'est-à-dire qu'on leur explique qu'ils vont faire plus de rendement au lieu de leur parler de revenus à l'hectare et de marge. Bon, bref. Il y en a encore pour plonger là-dedans. Mais sauf que le consommateur, après, je veux dire, vous, Maëlys, par exemple, que vous fassiez l'effort de consommer français par patriotisme pour sauvegarder la souveraineté alimentaire et pour manger sainement, surtout, que vous y gagnez quelque chose quand même directement, ça s'entend. Mais si demain, on vous sert des OGM, autant manger brésilien, franchement. Je vois pas quelle raison vous aurez de vous sacrifier si c'est pour manger la même merde en étant poli, excusez-moi. Mais voilà, ça, c'est vraiment fondamental, ça, c'est vraiment le gros risque de ce qui est en train de tomber sur le monde agricole. Et ce qu'elle vient de dire est fondamental. Et pire que ça, on va pas acheter surtout à des céréaliers français, parce qu'il faut savoir que la quasi-totalité, je sais plus, 97%, quelque chose comme ça, des brevets pour les NGT sont américains.
D'accord.
Donc on va dépendre entièrement du bon vouloir des Américains. On sait quoi penser des Américains, c'est bon, il y a suffisamment d'années d'histoire pour connaître un peu les artistes. Voilà vers quoi on va. Ça va être, ça peut être un tournant absolument terrible. À chaque fois qu'on pense qu'on a vu le pire pour le monde agricole, en fait, ils nous en sortent une encore pire. Ils ont un talent à l'Union européenne, c'est assez frappant.
Effectivement. Alors justement, vous avez parlé aussi de ces fameux rendements qu'on promet toujours plus pour les agriculteurs, etc. On imagine que lors de ces périodes estivales, évidemment, comme on l'a dit, vous devez vous adapter. Mais vous, concrètement, Maglone de 16, en termes de coûts économiques, qu'est-ce que ça représente pour vous? Quel est l'impact que cela a?
Alors, il y a un adage que nos anciens nous ont transmis, c'était il faut une tonne de blé pour acheter une tonne d'engrais. Voilà, c'était un petit peu le point d'équilibre de toutes les exploitations depuis de nombreuses années. Et là, cette année, il nous faut 3 tonnes de blé pour une tonne d'engrais. Donc, quand vous faites un rendement de, allez, 6,3 tonnes hectares, c'est ce qui est la moyenne dans notre département, dans l'Indre, en Berry. Vous voyez qu'il reste pas grand-chose pour acheter, pour entretenir le matériel, acheter bah, les produits phyto, payer votre main-d'œuvre, payer votre MSA, et puis accessoirement vivre quand même, quoi.
Oui.
Donc, on se retrouve effectivement avec une marge qui est mangée, mais tout de suite, vraiment intégralement juste pour acheter de l'engrais, parce que dans nos sols, dans nos zones intermédiaires, c'est-à-dire zones à faible potentiel, si nous n'avons pas d'engrais, on ne peut rien faire pousser. Il n'y aura rien, soleil ou pas. Donc c'est très très on arrive dans un système où effectivement nos marges sont rognées d'année en année, et chez nous, ça va faire là, allez, troisième année. On va vendre à perte. Nous sommes le seul
D'accord.
secteur économique en France où nous vendons, nous avons encore l'autorisation, entre guillemets, de vendre à perte. Est-ce normal? Alors que nous nourrissons les Français, nous leur apportons une nourriture saine et loyale. C'est marqué sur tous nos contrats quand nous vendons du blé. Il y a une petite ligne en dessous. La production est saine et loyale. Où va-t-on? Donc, effectivement, la canicule et puis le coût des intrants et le coût des matières premières, le coût de production est très très élevé. Je voulais juste vous donner un autre chiffre. Grosso modo, le coût de revient d'une tonne de blé en France est entre, allez, je vais être un peu large, entre 200 et 250 euros tonne. À l'heure actuelle, on nous en propose 170-180 euros tonne. Et le blé ukrainien arrive en France entre 100 et 120 euros tonnes. Donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte?
Oui.
On veut bien produire, on sait le faire. Et on sait bien produire, ça, on sait le faire. Par contre, si on ne protège pas la production française vis-à-vis des concurrences déloyales, même européennes, internationales et européennes, et c'est pour ça que la
Surtout européenne.
coordination rurale appelle de ses voeux l'instauration de l'exception agriculturelle, et ça, on le dit depuis la création de la coordination rurale depuis 1992, depuis la réforme de la PAC, il faut absolument protéger notre production. On ne peut pas délocaliser, nous. Nous, agriculteurs, on va pas aller produire ailleurs, on veut produire chez nous. Et il faut que les Français l'entendent, et il faut absolument protéger la production française, la production agricole française.
Et justement, Pierre-Guillaume Mercadal, vous, qu'est-ce que vous souhaitez justement pour protéger cette agriculture française? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce que vous préconisez?
Alors, ben, il y a une technique toute simple qui permettrait de réduire, enfin de résoudre, je dirais entre 90 et 95% des problèmes du monde agricole. Elle est hyper, hyper ambitieuse. Ça s'appelle avoir des frontières, en fait. Voilà. Si
D'accord.
demain on a des frontières, le problème est réglé. Alors, j'ai longtemps rêvé d'exceptions agriculturelles comme Maglone, mais je crois qu'on sera jamais entendu. Je crois que l'Europe, c'est uniquement des lobbies et que nos politiques sont, allez, soyons sympas, à 80% des vendus, pour être sympa, du coup. Si on sort pas de l'Union européenne, on est mort. L'Union européenne n'a qu'un but, c'est détruire les souverainetés de chaque pays afin de détruire les nations. C'est clair, c'est indéniable. Enfin, je pense qu'on a tous assez de recul là-dessus pour pouvoir l'affirmer. Voilà, donc pour moi, l'urgence, elle est fait de contrôler nos frontières et de sortir de l'Union européenne, tout simplement, quitte à en refonder une plus tard, hein, c'est pas le souci. Mais le monstre dans lequel on est en train de nous détruire, de nous effacer. Et ça, c'est plus possible et ça doit s'arrêter, c'est tout. Il y a, pour moi, voilà, le paradigme n'est pas compliqué, donc on verra s'il pouvait y avoir une union des souverainistes aux prochaines élections. C'est un peu le seul espoir, parce que les autres, je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je m'en fous. Voter LFI ou voter RN, c'est exactement la même chose, c'est voter européiste et se faire avoir, vu qu'on est sur Radio Courtoisie, on va rester poli, à la fin. Donc voilà, moi mon seul espoir, ce serait qu'il y ait une union de droite à gauche ou de gauche à droite de tous les souverainistes. Voilà, la clé est là, si on sort pas de l'Europe, on est foutu, je vous le dis, je vous le répète, toutes les lois à la con qui nous arrivent viennent d'eux, et le pire, c'est qu'on pourrait être main dans la main avec les écologistes, parce qu'à partir du moment où on contrôle les frontières et où il n'y a plus de concurrence déloyale, on peut même augmenter tout ce qu'on veut en termes de normes en gros environnementales, à partir du moment où il y a un revenu derrière pour les paysans, enfin voilà, on pourrait même réinstaller du monde, on change complètement de paradigme. Et la souveraineté alimentaire, je le répéterai jamais assez, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne et la base de toute société. Si on la perd, on va vraiment devenir des marionnettes. Et là, non seulement on est en train de la perdre, mais le peu qu'on gardera chez nous, on le produira sous brevet américain.
Et alors, je voudrais rajouter que l'exception agriculturelle, elle existe, il y a l'exception culturelle qui existe en France pour le domaine de la culture, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer au domaine agricole ? Ça, on le voit bien, il manque juste un peu, enfin, il manque juste beaucoup de volonté politique. Mais en fait, ce qu'il faudrait, ce serait remettre aussi des quotas. Et des quotas rémunérateurs, des quotas qui soient rémunérés à hauteur de nos coûts de production. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit que la PAC ne tient absolument pas compte des coûts de production. C'est à la surface, ok. Mais alors sinon, on n'est absolument pas lié avec les charges de production que nous avons. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Europe ou pas Europe, ça c'est un autre débat, mais effectivement, tel que le système est là, rien ne pourra évoluer.
Alors, Pierre-Guillaume Mercadal a parlé justement du fait que les écolos, finalement, ce qui leur manque, à vous entendre, c'est simplement d'être pour les frontières, au final. Voilà. Manifestement, évidemment, c'est pas trop ce qu'ils revendiquent. On dit souvent à droite que l'écologie, finalement, notamment l'agriculture, eh bien, c'est un combat absolument fondamental et inhérent à notre camp politique. C'est une forme de conservatisme. Vous, Pierre-Guillaume Mercadal, qu'est-ce que vous pensez justement de cette fameuse écologie de droite, est-ce que pour vous c'est un non-sens ou alors justement c'est totalement légitime ?
C'est totalement légitime puisque l'écologie par nature est un conservatisme. Est-ce que vous voulez, voilà, donc c'est à partir du moment, je vois pas en quoi la droite devrait pas être écolo. Maintenant, le problème, c'est que la droite a toujours de beaux discours, mais existe-t-il un parti qui a plus trahi les Français que les Républicains ? Je ne pense pas. C'est vraiment, à mes yeux, le pire parti ayant existé. Je trouve que même les socialistes sont propres à côté, c'est dire. Voilà, ça c'est le grand problème de ce pays. Mais après, non, en fait, on doit arrêter de se diviser, parce que si vous voulez, on cherche à nous diviser par tous les moyens, sur tous les sujets. Mais qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit ce qu'on veut, les mondialistes sont nos ennemis absolus, en fait. C'est tout. Si vous êtes nationaliste, le mondialisme est votre ennemi. Si vous êtes, altermondialiste, en fait, au fond, le mondialisme reste votre ennemi parce que c'est le grand capital. Et quelle que soit votre religion, le mondialisme, c'est le diable, en fait. Donc, le fond du problème pour moi est là. On peut s'entendre, et puis comme je vous dis, en fait, à partir du moment où on contrôle les frontières et où on n'a plus de concurrence déloyale, on peut envisager des productions encore plus écolo. C'est même pas le problème. Le problème des paysans, c'est pas l'application des normes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de revenus et qu'on les met en concurrence directe et déloyale avec des pays qui n'ont aucune norme. Et nous, en plus des normes européennes, on nous rajoute des normes franco-françaises. C'est ça qui tue les paysans. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. C'est triste c'est triste que les gens le comprennent pas. Et comme je vous dis, la mobilisation qu'il y a eu, par exemple, était belle sur les néonicotinoïdes, mais c'était une connerie. Puisqu'en fait, on a mis un énorme coup à la production de noisettes françaises. Sauf qu'on importait déjà énormément et maintenant on importe encore plus. Et donc, pour votre santé à vous, Maëlys, au quotidien, vous mangez des noisettes remplies de néonicotinoïdes. On a pris le problème à l'envers. Si on veut plus de néonicotinoïdes, très bien, mais contrôlons nos frontières. Parce que si on tue les paysans qui produisent avec, mais qu'on en importe des cargos entiers deux fois plus chargés en produits chimiques, ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est tout le problème. Mais en tout cas, je peux vous dire que, notamment à la Confédération paysanne, pour en avoir été membre il y a pas mal d'années en arrière, le mot frontière, c'était du nazisme. Aujourd'hui, ils commencent à entendre fortement le mot frontière. Donc, moi, j'ai quand même espoir. De toute façon, je ne perdrai jamais espoir, mais je vous dis, plus on avance, plus ça va être compliqué de faire marche arrière.
C'est pour ça que le mot quota, j'aime bien le mettre en avant aussi, parce que c'était un gros mot il y a quelques années. Et en fait, le mot quota réglerait aussi pas mal de problèmes au niveau économique, mais aussi environnemental. Parce qu'on va pas s'amuser à faire des rendements extraordinaires, alors qu'on ne pourra plus les faire. Du coup, on va acheter plus d'engrais pour avoir plus de rendement. Donc, on se tire aussi une balle dans le pied. Donc, avec des quotas, en nous disant, bah voilà, jusqu'à, allez, 50, 50 quintons, on vous paye bien. Le reste au cours mondial. Bon ben, on va pas aller produire pour rien quoi. On veut nous ce qu'on veut. On est avant tout des chefs d'entreprise. Il faut pas l'oublier. Donc on veut gagner notre vie par notre travail. Donc voilà, il faut. On est tous écologistes. Tous on a l'écologie. C'est notre fonds de commerce. Donc on va pas aller saper notre fonds de commerce quoi. C'est voilà, l'écologie c'est aussi pour nous.
Effectivement, alors le gouvernement, évidemment, annonce toujours plusieurs mesures d'urgence hein, pour subvenir pardon, aux besoins des agriculteurs, donc en période de canicule, mais même toute l'année au final. Enfin voilà, ils annoncent beaucoup de choses. Au final, on sait très bien qu'ils en font quand même assez peu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un petit peu que le gouvernement français, même au-delà de l'Union européenne, est toujours finalement plutôt dans la réaction que dans l'anticipation, Maglone de 16?
Ben, c'est peu dire, oui. C'est sûr que que ce soit enfin le gouvernement ou l'Europe, hein, ben, ce qui les intéresse, c'est leur mandat, quoi. C'est tout, hein. C'est pas tellement les Français, c'est encore moins les agriculteurs. On représente quoi dans la population française à l'heure actuelle? Donc pourtant les mesures, ben, on vient de les décrire, on les connaît. On sait ce qu'il faut, nous on est du terrain, donc on fait remonter, on n'arrête pas de nous dire de faire remonter auprès des préfectures ou des DDT nos revendications, ils les connaissent. Mais ce qui manque, eh ben, c'est le courage politique de renverser la table et de mettre un nouveau système en place, parce que le système qui est actuellement en place, ben, on voit qu'on est au bout, il n'est plus du tout efficient pour avoir une agriculture viable, rentable et transmissible. Quand on voit le nombre d'installations qui chutent, nous, dans notre département, c'est la catastrophe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que vont devenir les hectares qui vont se libérer? Il y a quand même près de la moitié des agriculteurs qui ont plus de 50, 55 ans, je crois. Donc, partir à la retraite dans les 10 années qui viennent. Que va-t-il se passer dans nos campagnes? Il y a actuellement, c'est vraiment, on peut le comparer à un plan social, mais d'envergure. Parce qu'on fait vivre combien de personnes dans les territoires et dans nos campagnes et puis dans toute l'industrie. Donc c'est et personne ne bouge, personne ne fait rien. On a des mesurettes, voilà, les lois d'urgence qui n'en sont plus, hein, parce que de toute façon là nous on nous parle de l'eau. Il nous faut de l'eau effectivement. Sans eau il n'y a pas de vie. Donc les réserves d'eau c'est très bien, mais est-ce qu'on va avoir la capacité financière d'investir? Maintenant c'est ça le cœur du sujet. Donc, moi, j'allais dire, nous, dans notre région, dans le département de l'Indre, où il y a à peu près 3 000 exploitations agricoles, il n'y en a que 120 qui irriguent. Donc, est-ce que les autres vont avoir la capacité financière d'installer des systèmes d'irrigation sur leurs exploitations ou faire des réserves d'eau? En plus, avec toutes les contraintes administratives que l'on connaît. Donc, que faire? Voilà. Mais il faut d'abord commencer de toute façon par nous rendre plus de liberté, la liberté d'entreprendre, et puis protéger une fois de plus, encore et toujours, la production agricole et la souveraineté alimentaire pour tous les Français. Ça, c'est la clé de voûte de toutes les mesures qui doivent être prises.
Oui, à travers ce que vous dites, on a un peu l'impression, enfin, on a même littéralement l'impression que les agriculteurs sont totalement livrés à eux-mêmes, en fait, qu'ils ne peuvent plus du tout compter sur leur gouvernement. Ça, finalement, j'ai envie de vous dire, comme l'ensemble des Français, hélas. Pierre-Guillaume Mercadal, vous, est-ce que vous adhérez à ce constat?
Ah non, non, moi pas du tout, parce que je trouve qu'on a des politiciens très compétents et vraiment brillants. On a même une prof de français au ministère de l'Agriculture. Et je peux vous signer, même si on a un niveau de ministre de l'Agriculture catastrophique, alors elle, c'est plus par bêtise et incompétence, Mais on en a une qui arrive là de ministre dans les tuyaux, et celle-là, elle va valoir son pesant d'or, parce qu'à mes yeux, c'est probablement la politicienne la plus sale que j'ai jamais vue. Il faut lui laisser le temps de finir de trahir les Républicains pour aller soit plus au centre, soit plus à droite, mais je la vois bien ministre si le RN arrive au pouvoir, c'est Céline Himard. Celle-là, si on l'a, elle finira de nous trahir et de nous achever, je peux vous le signer. Voilà. Elle, alors là, les dents qui rayent le parquet à un point, j'ai jamais vu ça, elle m'écœure, cette femme. Ça, c'est une de nos futures ministres de l'Agriculture, je peux vous le signer. Mais non, le problème, c'est l'incompétence, parce qu'en fait, vous parliez de réformes structurelles. Les réformes structurelles, on les a. Et je vais même vous dire, la situation est tellement catastrophique que les syndicats arrivent à s'entendre entre eux. On l'avait même vu, notamment même en Ariège avec la vaccination, alors qu'on partait de très loin. On arrive à s'entendre entre syndicats parce qu'en fait, à un moment donné, c'est du bon sens paysan. Et si on fait sauter les deux ou trois mecs qui sont montés arrosés par les lobbies, on arrive tous à s'entendre. Mais non, non, là, le problème, c'est qu'au niveau des postes à responsabilité, on met des gens incompétents mais contrôlés et qui vont à la gamelle. Et ça ne nous aide pas du tout parce qu'on a une ministre qui ne comprend rien à l'agriculture. Mais c'est frappant à quel point elle est mauvaise. Enfin, une catastrophe, Madame Genevard.
Au moins, les termes sont posés. Alors, vous avez parlé justement de l'eau tout à l'heure, Maglone de 16. On sait que c'est un sujet ou du moins un levier assez crucial, notamment en période de canicule. Est-ce qu'on peut considérer, surtout en période estivale, que c'est un petit peu le sujet numéro un pour espérer survivre à ce genre de choses?
Ben, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sans eau, il n'y a pas de vie. Mais par contre, le problème, il doit être mis, il doit être, enfin, les décisions doivent être prises, non pas quand il fait chaud,
Oui,
mais
avant.
quand on n'a plus l'eau à disposition, c'est-à-dire l'hiver.
Oui.
Il faut, voilà, on a vu au mois de février, nous, sur notre département, on a reçu une centaine de millimètres. Bon, ben, où est-ce qu'elle est, l'eau? Elle est partie où? On n'en voit plus. Les sols sont secs, les arbres sont brûlés. L'herbe est toute brûlée également. Donc, voilà, il nous faut absolument des réserves d'eau. Mais ça, c'est du bon sens paysan, comme disait Pierre Guillaume. On sait que l'eau, on ne va pas la puiser l'été. Mais si on peut faire des réserves l'hiver pour l'été, ben volontiers. Et bien sûr, on ne va pas irriguer en pleine journée. Ça, c'est une fois de plus le bon sens paysan, quoi. Mais il va falloir que les règles changent et très très vite. Et ça, dans le domaine politique, c'est une notion qu'on ne connaît pas.
Effectivement. Mais justement, donc vous avez parlé d'irrigation, etc. Est-ce que c'est une chose que l'ensemble des agriculteurs doivent faire de manière un peu générale, ou est-ce que chaque agriculteur peut décider de son irrigation? Enfin, est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des règles qu'ils doivent absolument respecter, ou alors est-ce que chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut?
Ah non, heureusement, il y a des règles. Parce que en fait, tout dépend de la qualification de votre forage. Si
D'accord.
vous avez un forage dans une nappe phréatique, dans une rivière, ou alors un plan d'eau, ou une réserve d'eau que vous avez faite, hein, il y en a qui en ont quand même, vous avez des restrictions qui sont différentes. Voilà. Donc, c'est très cadré. Ça veut dire que l'agriculture ne mange pas toute l'eau, hein, contrairement à ce que certains disent. La ressource est partagée, mais voilà, alors il se peut qu'il y ait, dans certains cas, effectivement, des interdictions, où on commence par des restrictions, et puis après des interdictions. Mais de façon générale, nous, dans notre département, moi j'ai un agriculteur là à côté de chez moi qui irrigue, et il m'a dit en 10 ans, son quota a été divisé par deux.
D'accord.
Donc, on voit que les températures augmentent et la ressource en eau, mais il en a un peu moins disponible. Donc, bon, bah, lui, il se pose des questions. Alors, son matériel est complètement amorti. Donc, il n'a pas cette charge dans son activité, dans son bilan. Mais pour les autres, que fait-on?
Effectivement. Et vous, Pierre-Guillaume Mercadal, c'est une difficulté que vous rencontrez?
Alors, moi directement, pas spécialement. Moi, j'ai déjà des points d'eau pour mes animaux, donc c'est pas. Mais disons que moi, je suis pour la création de retenues, mais avec de grosses pincettes pour ce qui est des méga bassines. Pas par. le principe de la mégabassine me choque pas. Le gros problème que j'ai avec les mégabassines, c'est toujours pareil, c'est la répartition de l'eau, parce que bien souvent, elle est absolument pas équitable. Les petits paysans n'y ont pas accès, et c'est ceux qui sont le mieux placés avec les meilleurs contacts qui ont les meilleurs quotas. Et ça, voilà, pour moi, si mégabassine il y a, elle doit être répartie équitablement entre les paysans. Après, moi, je serais pour tout simplement qu'il puisse y avoir des petites retenues collinaires dans les fermes qui peuvent les recevoir avec un volume plafonné, hein, c'est pas le problème, il n'y a pas besoin de faire des hyperstructures, mais ce qui permet en fait à chaque ferme d'avoir un certain nombre d'hectares de cultures dites à haute valeur ajoutée, et qui permet de créer du revenu pour les paysans, point. Après, c'est aussi à nous de nous adapter sur les choix des cultures qu'on fait. Ben forcément, si on n'a pas d'eau, on va éviter de faire du maïs, par exemple. Moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est à nous de nous adapter, parce que ben, malheureusement, on le voit, hein, des mecs qui n'ont pas d'eau et qui mettent quand même du maïs, et ça marche pas. Bref, voilà. Donc, il faut s'adapter dans le choix des cultures, mais c'est vrai qu'un accès raisonnable à l'eau devient absolument urgent. Comme je vous dis, qu'il soit plafonné, hein, que les réserves d'eau ne doivent pas dépasser tant de milliers de mètres cubes. C'est des choses qui peuvent tout à fait se faire. Mais il faut donner accès à l'eau aux paysans, surtout sur de l'eau de ruissellement qu'on ne capte pas et qui ne reste pas. Enfin, moi, ça, j'ai du mal à comprendre qu'on ne nous laisse pas le faire.
Et que ce soit pour les céréaliers ou pour les éleveurs. Les éleveurs ont énormément besoin d'eau, surtout en ce moment. Donc, nous, dans notre département, il y a beaucoup d'élevages bovins. Et du coup, la ressource en eau est primordial. Donc, il leur faut absolument un accès à l'eau.
Et en arboriculture aussi. Hein. En arboriculture, il faut savoir qu'ils en ont même besoin l'hiver, parce que c'est grâce à l'eau en hiver qu'ils arrivent à combattre le gel, en arrosant au moment où ça gèle pour éviter de passer le seuil de gel, en fait, tout simplement. Donc, il y en a besoin pour toute l'agriculture, parce que l'eau, c'est la vie, et que nous, on travaille avec le vivant. Donc, à partir de là, problème réglé.
On a tout dit.
Mais voilà, on en revient toujours au même problème. Les solutions, on les connaît tous, avec des petites divergences, mais on arrive à s'entendre, même entre syndicats, non-syndiqués, tout ce qu'on veut. Mais on assiste à des pouvoirs publics qui ont pour seule volonté de nous détruire, parce que si nous, on tombe, c'est la souveraineté du pays qui tombe. Voilà, si on veut effacer la France en tant que nation, il faut effacer son agriculture, c'est aussi simple que ça.
Évidemment, c'est tout, sauf ce qu'on souhaite, cher Pierre-Guillaume Mercadal. Alors, Maglone de Cèze, alors on le sait, vous êtes président de la coordination rurale de l'Indre. Vous avez parlé justement de ces fameuses divisions qu'il peut avoir entre ces différents syndicats, etc. On voit aujourd'hui que l'idée qui fait le plus consensus, c'est la protection des frontières, notamment même chez la Confédération paysanne. Donc, comme quoi, comme on dit, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais quelles sont aujourd'hui vos principales divergences, notamment sur le sujet de la canicule ou même sur les sujets généraux des agriculteurs ?
Bah, sur le sujet de la canicule, c'est vrai qu'on est tous impactés. Oui. On est tous sur le même ciel, même terre, même soleil. Donc là, effectivement, on est tous sur le sujet de la canicule, on est tous complètement impactés. Et puis, heureusement ou malheureusement, il n'y a rien à faire. Enfin, on subit, on s'adapte. L'agriculture, c'est toujours adapté. Et les agriculteurs s'adaptent à leur environnement. Donc, c'est le sens même de notre métier et du bon sens paysan. Après, effectivement, on a des divergences entre syndicats. À la coordination rurale, on a... donc, j'ai parlé de revendications, c'est-à-dire l'exception agriculturelle, notamment. Chez nous, en fait, nous sommes complètement libres de toutes les instances para-agricoles. C'est-à-dire que si vous êtes administrateur d'une coopérative, d'une banque ou d'une assurance ou je ne sais quoi dans le secteur agricole, vous ne pouvez pas avoir de responsabilité dans le syndicat. On veut avoir une parole libre. Donc, contrairement à d'autres syndicats que je n'aimerais pas ici, on est vraiment, c'est notre ADN, c'est qu'on veut garder notre liberté de parole. Et on a vraiment c'est vraiment la base qui parle, et on l'a bien vu dans toutes nos manifestations, et nous dans le département de l'Indre également, beaucoup de personnes entendent notre discours, le comprennent et viennent nous voir et adhèrent à la coordination rurale. On a des adhésions qui affluent de partout pour le moment. On espère que ça va Ça va continuer et on grandit énormément et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que notre message passe et notre message est entendu.
Effectivement, alors à travers cette canicule, il y a aussi. Vous voulez peut-être réagir, Pierre-Guillaume Mercadal?
Oui,
Ah bah
j'ai
allez-y.
pour le coup malheureusement pas du tout la même analyse que Maglone,
Je
que au
d'accord.
demeurant j'apprécie beaucoup parce que sa ligne, je pense que je peux me permettre d'affirmer que sa ligne c'est la ligne historique de l'ACR, et c'est pour cette ligne-là que je suis rentré à l'ACR. Mais par contre, je me permets de te tutoyer Maglone, ce que tu disais sur le fait qu'on soit indépendant, qu'on soit pas président de ceci, de cela, ça c'était avant, hein. Mais en fait, avec la croissance extrêmement rapide qu'on a eue, beaucoup de gens de la FNSEA, visant aussi des postes et des commissions, sont rentrés. Et c'est un problème qu'on a dans beaucoup, 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 beaucoup de départements. Et la ligne, excuse-moi, hein, mais moi je trouve quand même aujourd'hui au niveau national l'ACR, la ligne historique de l'ACR a été complètement oubliée. En fait, pour caricaturer, Maïlis, la FNSEA, c'est la doctrine de produire toujours plus, produire pour nourrir la planète, enfin, une connerie sans nom, bref,
La
on sait où ça a
puissance
amené pour l'agricole.
exportatrice de la France.
Voilà.
Voilà, c'était le dogme.
La Confédération paysanne, c'est la défense des toutes petites fermes et une volonté, on va dire, un peu de déproduction. Et au milieu, il y a la coordination rurale qui veut sauver tous les agriculteurs, qui veut les petites fermes. Mais qui n'est pas non plus l'ennemi des grosses, parce qu'il faut arriver à nourrir non pas le monde, mais la France. Bon, ça, c'était très bien, mais pour moi, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment du mal à voir aujourd'hui en quoi la coordination rurale, bien sûr, il reste des gens très très bien à la coordination rurale, mais globalement, aujourd'hui, j'ai du mal de plus en plus à voir la différence entre la FNSEA et la coordination rurale. Et ça m'embête
Ah
beaucoup de le
oui.
dire, mais je le pense profondément. Ça devient vraiment très inquiétant les tournures que prennent l'ACR, et comme je vous le dis, notamment sur les NGT, où on a endormi nos militants de base, donc les NGT, les OGM, en ne prenant pas position de A à Z, mais notre président, à qui je reconnais bien volontiers d'être quelqu'un de franc, m'avait clairement dit, lui, être pro-NGT, OGM, etc., et sa garde rapprochée aussi. Et ils nous ont passé ça sans même, en souplesse. Hop, on n'en a pas parlé, le sujet n'existe pas. Voilà, ça fait partie des gros soucis et des gros renoncements. Vous savez aussi, je vais vous dire une chose, Maëlys, vous avez couvert, ça a fait beaucoup de bruit ce qu'on a fait en Ariège cet hiver,
Oui.
mais le problème, c'est que les paysans, ce n'est pas des militaires. Et que pour beaucoup de gens, sortir se mobiliser, c'est le grand soir, c'est la victoire finale. Et ils comprennent pas beaucoup que résister, ça veut dire en prendre plein la gueule pendant des années, parfois pendant toute une vie, pour peut-être arriver à une victoire un jour. Et ce qu'on a vécu en Ariège était tellement affreux que des milliers de paysans aujourd'hui sont désabusés ou veulent plus se battre et essayent de préserver maintenant juste leurs petits intérêts parce qu'ils ont abandonné, en fait. Et ça, c'est compliqué à gérer aussi.
Évidemment. Justement, donc pour revenir sur ces fameuses cris, enfin, ces fameuses révoltes qui avaient lieu notamment au moment de la dermatose en Ariège, on a vu encore une fois hein, un État complètement déconnecté et puis des policiers complètement zélés au pouvoir qui manifestement n'avaient pas forcément honte d'aller abattre le bétail alors qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose, hein, si pour rester pour rester poli. Vous, Pierre-Guillaume Mercadal, justement, sur cette capacité de révolte des agriculteurs, on le sait, le peuple français, il est quand même assez endormi, hein, en réalité, sur les révoltes populaires. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs, eux, quand on compare, eh bien, sont un petit peu plus sur le pont dans ces moments comme ceux de janvier dernier?
Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'agriculteur, c'est bien beau, mais les paysans tout seuls, on fera rien. Le problème qu'on a, c'est que vu que ce qu'on défend, c'est l'intérêt de tout le monde, c'est qu'il faut l'union avec la population. Et bon, moi, j'aime pas faire semblant de pas avoir vu les problèmes. Je peux vous dire qu'en Ariège, ça nous a été vertement reproché par certains aux responsables, le fait de faire en sorte que la population nous rejoigne. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté que ce ne soit qu'un combat syndical, voilà, ce qui est absolue catastrophe. Ce qui fait aussi, voilà, que je commence à me poser de grandes questions et à perdre un petit peu espoir sur ce que devient
Oui.
la CR. Et je vais même aller plus loin. Il faut quand même savoir que après ce qu'on a vécu en Ariège, un des responsables, dont pour le coup je tairai le nom, a été, bon, je pense aussi par écœurement et traumatisme de ce qu'il avait vécu en Ariège, mais a été jusqu'à donner des conseils en réunion ministérielle à Annie Genevard pour arriver à emmerder et bloquer les éleveurs qui refusent encore et toujours de vacciner en Ariège. Parce qu'il faut bien expliquer à vos auditeurs que très, très, très peu de vaches en France sont vaccinées. Parce qu'en fait, les seules zones où les vaches ont dû être vaccinées, c'est des périmètres autour des cas de dermatose qu'il y a eu dans le sud. Mmh. Donc, ça représente extrêmement peu de vaches par rapport aux 15 millions de vaches qu'on a en France. Voilà. Moi, quand je vois des choses comme ce que je viens de vous décrire, si vous voulez, je commence à avoir du mal à... à garder la foi. Pourtant, je peux vous dire que j'ai sacrément mouillé le maillot pour la CR et que j'y voyais vraiment un espoir. Mais là, je suis obligé d'admettre publiquement que le mouvement a été sacrément noyauté.
Voilà. Chers auditeurs, il est 8h15 et si, évidemment, sur Radio Courtoisie, on veut la liberté et l'indépendance de nos agriculteurs, mais on veut aussi notre propre indépendance, cher Arnaud.
Et la garantie de notre indépendance passe par votre générosité, chers auditeurs. Donc, je vous invite à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou bien d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et je repasse la parole à Maëlys pour qu'elle nous livre la suite du programme.
Effectivement.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Pierre-Guillaume Mercadal, vous disiez il y a quelques instants que vous avez assez peu d'espoir pour l'agriculture et toutes les mésaventures que connaissent nos agriculteurs. Hein, j'ai envie de vous dire, ce n'est plus un scoop. Moi, j'aimerais parler justement de cette jeune génération d'agriculteurs. Je pense notamment aux agriculteurs qui sont syndiqués, je crois que c'est les jeunes agriculteurs justement, donc des agriculteurs, on imagine, qui sont assez jeunes. Eux, comment est-ce qu'ils perçoivent le métier d'agriculteur? On voit qu'il y a quand même une jeunesse qui souhaite un retour à la tradition et donc à l'enracinement. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous observez?
Alors oui, ça c'est évident, mais même au niveau de la jeunesse française de manière générale. Maintenant, je voudrais juste dire deux choses. Les jeunes agriculteurs ne sont pas plus jeunes que les autres. En fait.
Ah bon, ben, voilà.
Les JA, en fait, si vous voulez, c'est la pépinière de la FNSEA. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à 40 ans, vous êtes au JA, et à partir de 40 ans, vous ne pouvez plus être JA, vous rentrez à la FNSEA. Et c'est ce qui fait que dans l'ensemble des chambres d'agriculture de France, ils font liste commune. Mmh. Les rares endroits où il y a une dissension et où ils font pas liste commune, la FNSEA tombe. Mais ils font systématiquement liste commune parce qu'en fait, le père est à la FNSEA et le fils est au JA. Mais c'est vraiment exactement la même chose. Enfin, moi, je comprends même pas que ça existe en tant que deux syndicats différents. Mais voilà, je pense que Maglone me rejoindra là-dessus. Il n'y a pas de problème. Par contre, je voulais juste reprendre une chose que vous avez dit. Moi, j'ai pas du tout perdu espoir pour l'agriculture. Attention.
Ah, bon, tant mieux.
Je dis que je perds espoir dans ce que devient la coordination rurale.
Ah oui, d'accord.
Et en laquelle j'avais fondé beaucoup d'espoir pour fédérer, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de trahison et qu'en plus, il n'y a pas la volonté de faire front avec la population. Et si on ne prend pas la population avec nous, on est mort. Et en plus, c'est l'intérêt premier de la population. Voilà ma vision, voilà ce que je voulais dire. Après, au niveau des jeunes, en fait, c'est toujours pareil. La volonté de s'installer pour les jeunes est liée. Mais bien souvent, enfin moi j'ai plein de cas où c'est les pères qui veulent pas que leur fils s'installe parce qu'ils savent pas quel avenir ils ont à leur proposer, parce qu'ils ont peur pour demain. Et ça, en fait, une fois de plus, si on veut le régler, c'est très très simple, il faut des frontières en fait. Parce qu'à partir du moment où on a plus de concurrence déloyale, on peut réinstaller massivement des jeunes, on peut à nouveau peupler nos campagnes, produire bien. Enfin, les solutions, je vous dis, je suis pas utopiste. Je pense que Maglone abondera complètement dans mon sens sur ces choses-là. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ne pas travailler, c'est pas vivre des primes. Nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir avoir du revenu pour vivre décemment de notre travail. Et à partir du moment où on arrête de nous foutre en l'air en nous mettant la concurrence de pays comme le Brésil ou le Maroc, où tout à l'heure vous parliez de concurrence européenne, mais oui, on veut nous rentrer l'Ukraine dans l'Europe. L'Ukraine, c'est la moitié de la production de céréales de l'Europe à elle toute seule. Si on rentre l'Ukraine dans l'Union européenne, les céréaliers comme Maglone, je vous avoue que les problèmes de canicule et autres vont leur manquer parce que face à l'Ukraine dans l'Europe, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire.
C'est quelque chose dont vous avez peur, Maglone de 16?
Ah oui, tout à fait. Bah, si l'Ukraine rentre dans l'Europe, que ce soit pour les céréales ou les volailles ou les œufs, on voit déjà, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour toute l'agriculture française. Et je voulais quand même noter donner une petite note d'espoir. Nous, les agriculteurs, on sème tous les ans. On fait naître nos animaux, parce que je suis aussi éleveuse ovine par ailleurs. On fait naître nos animaux, donc tous les ans, en fait, on renaît, on recommence et on ressème. Pourquoi? Pour avoir une année meilleure, dans l'espoir d'avoir une année meilleure, dans l'espoir de faire mieux. Et c'est ça notre espérance, et ça, on l'a chevillé au corps. Et moi, c'est pour ça que je me bats aussi au sein de la coordination rurale, au sein d'un syndicat, pour redonner espoir quand je vois les jeunes qui veulent s'installer, mais il faut les encourager. Par contre, effectivement, il faut les moyens d'eux. On va pas aller ils vont pas prendre une exploitation qui ne tourne pas ou qui n'est pas rentable, ça, ce serait suicidaire. Mais il faut absolument retrouver cette espérance. Et une fois qu'on aura cette espérance, j'espère que le mouvement va pouvoir redémarrer et avoir enfin des lois qui pourront nous aider et un encadrement législatif, parce que c'est tout le côté structurel qu'il faut revoir, c'est toute l'organisation de l'agriculture française qu'il faut revoir. Et là, on en est encore très, très, très loin. Mais on garde toujours cet espoir pour les générations futures.
Oui, comme vous dites, il faut de l'espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. Alors, on a beaucoup parlé de l'Union européenne et notamment de leur déconnexion absolument, absolument aberrante, ce zèle à la concurrence déloyale, notamment pour les pays comme le Brésil, l'Ukraine et autres. Mais en fait, on se rend compte que même le gouvernement français, qui se dit proche du peuple, entre guillemets, eh bien, finalement, même lui est à la rue, en fait. Enfin, quand on voit ce qu'il propose pour les agriculteurs, cette notion de réaction, toujours, jamais d'anticiper. Enfin, en fait, finalement, l'espoir, est-ce qu'il est encore dans la politique, Pierre-Guillaume Mercadal?
Mais Maëlys, bon, après, c'est votre métier de poser des questions, mais je pense que vous êtes trop intelligente pour me poser cette question de manière sérieuse. Est-ce que vous pensez, je vous réponds par une question, est-ce que vous pensez que nos politiques sont tous des attardés mentaux avec moins de 50 points de QI? Je pense que la réponse est non. C'est juste tous des traîtres à la nation, en fait. C'est tout simplement, on est dirigé par des traîtres à la nation. À partir du moment où vous êtes européiste, si vous n'êtes pas complètement hors sol, vous savez que vous êtes en train de détruire votre pays. L'Europe ne tue pas que ses agriculteurs. Le nombre de professions qui sont au bout du rouleau à cause de conneries de technocrates européens, non mais c'est scandaleux. Et le nombre de professions qu'on a détruites, enfin, on peut faire un clin d'œil au taxi et à tant d'autres, hein.
Oui.
Le nombre de professions qu'on a détruites par non-protectionnisme et par conneries européistes, et tous les politiciens le savent, mais la gamelle est trop bonne. Enfin, vous savez ce que ça coûte par an un député européen, sachant que la France est contributrice nette à l'Europe, donc ça nous coûte à nous directement, pas de souci.
Ben non,
Combien ça
écoutez,
coûte un député européen par an?
vous me posez une colle, Pierre-Guillaume Mercadal.
Ça coûte entre 600 et 650 000 euros par an.
Eh ben.
Vous vous rendez compte de la somme? C'est 35 000 euros rien qu'en budget mensuel pour payer les collaborateurs. Voilà, c'est un député européen, c'est plus de 50 000 euros par mois pour servir à quoi? À rien.
Oui.
À absolument rien.
Avec
Voilà, donc moi, voilà, la réponse est là.
50 000 euros, moi, je veux bien, je peux mettre un système d'irrigation où je renouvelle ma batteuse, je renouvelle mon tracteur. Enfin, j'ai de quoi
Pour
faire.
600 000, pour 600 000 euros par an. Vous connaissez beaucoup de
Et
sociétés
je
qui vous
double mon
rémunèrent des...
cheptel.
Non, mais vous connaissez beaucoup de sociétés qui vous rémunéreraient plus de 50 000 euros par mois pour ne servir à rien
Non.
et venir nous dire on n'a rien pu faire. Enfin, non, mais c'est un truc de fou quand même. Enfin, comment ces gens font pour se regarder dans une glace et continuer à vendre leur soupe? Enfin, c'est infect en fait. Aucune société n'accepterait ça. Mais l'Europe, ça va, c'est les lobbies, tout va bien, c'est bon, c'est les copains.
Effectivement, alors on a bien compris que nos politiques ne soutenaient pas l'agriculteur, puisque manifestement des moyens, il y en a, mais ils ne sont pas du tout mis aux bons endroits. En l'occurrence, on sait que les Français sont quand même assez sensibles à la cause des agriculteurs, etc. On l'a vu lors des vastes mobilisations, il y avait quand même pas mal de soutien, même si c'est toujours trop peu, hein, on imagine bien pour toutes les catastrophes que vous traversez au sein de vos productions. respectives, mais est-ce que vous sentez quand même ce soutien sur le terrain de la part des Français qui manifestement sont attachés à nos agriculteurs et au bon manger, puisqu'on est quand même le pays de la gastronomie, donc ça passe avant tout par l'agriculture.
Ben c'est vrai que moi, pour faire de la vente directe de mes colis d'agneau, je vois tout à fait mes clients en face, ce qui nous change du blé, effectivement. Et là, ben là, j'ai des gens qui sont ravis, qui sont contents, qui reviennent et qui amènent leurs amis, leurs cousins, leurs collègues. Et le bouche à oreille fonctionne très, très bien. Les gens sont avides, en fait, de bons produits et de bons produits de chez eux. Et ça, effectivement, alors, ça se concrétise peut-être pas de façon très, très large, mais on y arrive. Alors, c'est sûr que nous, on est avant tout des producteurs, on n'est peut-être pas des commerçants, c'est encore un autre métier, mais on se forme, on y arrive, on essaye, on se prend des gamelles, mais on rebondit, on recommence. Et effectivement, on sent qu'il y a quand même une population qui est attachée et à cette alimentation et ce bon vivre français qui nous maintient et qui nous fait vivre. Et c'est quand même notre histoire,
Bien
c'est quand même
sûr.
notre patrimoine et c'est nos traditions. Donc oui, il y a un soutien de la population, mais on aimerait qu'il soit un peu plus fort, un peu plus marqué et tout au long de l'année, pas seulement quand les agriculteurs manifestent.
Effectivement, comme on dit, pas de pays sans paysans. Alors écoutez, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Il est 8h25. C'était un entretien absolument passionnant. On a fait le tour sur cette cause agricole qui nous est chère et sur Radio Courtoisie, évidemment, on continuera à la défendre inlassablement puisque pas de pays sans paysans, comme on dit. Merci beaucoup, Pierre-Guillaume Mercadal. Je rappelle que vous êtes éleveur dans le Tarn et puis merci beaucoup à vous, Maglone de Cèze. Vous êtes agricultrice et présidente de la coordination rurale de l'Indre. On espère que l'État daignera vous aider, notamment pour ces canicules qui manifestement vont s'enchaîner d'année en année et également pour tous les autres soucis, la dermatose et tant d'autres, voilà. Donc on est quand même plein d'espoir, mais on vous adresse beaucoup de soutien. Merci à tous les deux. Chers auditeurs, il est 8h26 et nous venons juste de recevoir, donc nous venons de clôturer cet entretien sur la canicule. Mais si vous voulez évidemment d'autres entretiens de ce type, eh bien, cher Arnaud, nous avons besoin de liberté.
Exactement, Maïlys. Et cette liberté, eh bien, elle passe par votre soutien financier. Donc pour nous faire des dons en ligne, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et pour tous vos chèques, eh bien, par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris.
Eh bien, merci beaucoup, cher Arnaud. Il est temps de prendre congé de nos auditeurs sur YouTube et sur X. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et eh bien, dans quelques instants, nous parlons de bien-être animal et de révolte populaire des agriculteurs, notamment celle de janvier dernier.